Nous avons la grâce d'être réunis devant la face du Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps est-ce que le temps de la grâce encore durera, mais il y a une chose que nous savons, c'est que nous devons racheter ce temps que nous avons à notre disposition parce que c'est un temps précieux. Et le temps de la grâce va vers sa fin. Dieu prend soin que sa parole merveilleuse, oui, l'évangile précieux qui demeure éternellement, soit prêché à tous les peuples. Et je voudrais, avant que nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu, faire un court compte-rendu de ce qui s'était passé le mois dernier. Dieu a vraiment fait de grandes choses. Je crois que notre frère Helmut Miskis, ou bien Harry Schmidt, l'un des deux, ont mis à l'entrée les différentes photos que nous avons des différentes réunions pour que vous puissiez voir que Dieu récolte la moisson. Il y a beaucoup d'âmes à l'est et à l'ouest de l'Europe, et il y a maintenant aussi beaucoup d'âmes au sud et au centre de l'Amérique. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Et cette fois-ci, de nouveau, à Lima, au Pérou, dans ces deux endroits, j'ai parlé par la télévision et par la radio. Et j'ai pu m'adresser ainsi à toute la nation par la traduction. Et Dieu a simplement ouvert des portes et des cœurs. Et ce traité, Vision 7000, notre traité, a toujours de nouveau été présenté par le chef lui-même. Et les adresses ont été données d'une manière que des hommes peuvent être informés et ceux qui écrivent recevront donc de la nourriture avec les prédications de frère Branham et aussi avec ce que nous publions. Et alors nous sommes allés au Mexique où dans la réalité nous avons eu de grandes réunions, réunion charismatique pentecôtiste, mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que Dieu a son peuple partout éparpillé. Je ne m'arrête pas à ce qui se passe extérieurement. Pour moi, il s'agit de ces âmes précieuses qui ont le droit d'écouter la parole de Dieu et ils ont faim et ils ont soif dans la réalité après la justice. Et là aussi, il y a des hommes qui ont laissé leurs adresses pour recevoir des littératures et pour pouvoir ainsi être nourris. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes ces portes ouvertes. Nous lui sommes aussi reconnaissants pour les possibilités que nous avons en quelques heures se trouver à un autre côté de la terre pour prêcher sa parole. Donc, du Mexique, j'avais dans le cœur, et cette fois-ci, j'ai entrepris un voyage par les États-Unis, et j'ai utilisé 5 jours, j'ai ajouté 5 jours aux réunions, et j'avais vraiment dans le cœur, particulièrement Dallas, Texas, de visiter Dallas, Texas, où Gordon Lindsay, cet homme qui a écrit ce livre sur frère Branham avec le titre « Un homme envoyé de Dieu ». Cela avait été publié en 1950. Et je voulais faire des photocopies des premières publications de cet homme qui avait pris part déjà au ministère de frère Branham en 1947. Et donc, en 1948, il a donc publié les premiers les premières publications de Voice of Healing. Et j'ai à peu près, comme ça exactement, 20 extraits des premières publications qu'il avait faites des années 48, 49 et 50. Je les ai ramenés avec moi et tous ceux qui veulent regarder cela peuvent le faire. Parce que c'est pas frère Branham. C'est ainsi que nous le disons, parce que c'est ainsi que c'est. Dieu a commencé le dernier réveil en mai 1946. Tel que on peut constater quand est-ce que d'autres réveils ont pris leur cours. C'est ainsi que nous pouvons aussi suivre comment est-ce que Dieu a fait le commencement avec le dernier réveil qui maintenant parcourt les pays. Et je dois dire que j'avais été agréablement surpris de cette réception respectueuse donc par la femme Lintzel, par Madame Lintzel directement, une Allemande. Les deux parents étaient allemands. Elle est née Fisch. Et nous avons eu tout de suite un bon entretien ensemble. Et j'ai entendu beaucoup de choses, mais seulement pas ce que j'aurais bien voulu entendre. Ça ne sert à personne. Si par exemple on me dit, oui, nous avons voyagé avec frère Branham, nous étions souvent avec lui en chemin, et nous l'avons accompagné dans beaucoup de réunions, et nous avons vu l'action surnaturelle de Dieu toujours de nouveau. Et elle ne sortait même plus de l'étonnement face à tout ce que Dieu avait fait. Et dans la même assemblée, je ne le dis pas ici pour juger, je le dis seulement parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et parce que je venais justement de ces voyages-là, missionnaires, avec ce sujet, gardez-vous des faux prophètes. C'était le thème que j'avais pris dans le dernier voyage, et je prends du temps pour lire et pour écrire dans les aéroports et pendant les vols et pour préparer certaines choses. Et je dois dire que dans cette année, j'ai parlé dans plus de 20 réunions charismatiques pentecôtistes. Et dans ces réunions-là, dans le monde entier, j'ai reçu une vue d'ensemble et concernant les choses qui se passent dans ces domaines. Et d'une certaine manière, ça m'a ouvert les yeux d'une manière nouvelle, et ça m'a confirmé les Écritures. Mais ce qui s'est passé ce lundi-là, au Texas, à Dallas, le 13 septembre, le soir, entre 20h et 21h, était, dans la réalité, le point culminant de toutes les choses qu'on connaissait déjà, ou bien alors qu'on avait déjà entendu. Et cet homme, bon, il m'avait été demandé de m'asseoir sur la plateforme, et donc j'étais très proche de cet homme. Je l'avais salué auparavant et je l'avais regardé vraiment droit dans les yeux. Vous savez, il est écrit que les yeux sont la lumière du corps. Les yeux sont la lumière du corps. Et j'ai regardé dans ses yeux. Je n'ai pas pu voir le Seigneur. Mais vraiment, c'était des ténèbres qui sortaient de ses yeux. Vous allez tout de suite entendre ce qui s'est passé. Cet homme n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. En quelques minutes, il était déjà au milieu de son thème et il a dit, Christ est maintenant monté au ciel sur est maintenant monté sur le cheval au ciel, et à sa main gauche il tient le chauffard, et à sa main droite il tient l'épée. Et le cheval a tellement une grande vitesse, a tellement pris une grande vitesse sur les rues pavées d'or, que les sabots sur ces rues pavées d'or ont élevé un tourbillon, ont soulevé la poussière, et maintenant cette poussière tombe ici. Tombe ici, il dit. C'est lui qui le dit. Et alors il dit, regardez tous, ici, la poussière tombe maintenant sur moi. Et tout le peuple a loué, exalté, frappé des mains. Et moi, j'ai pris tout de suite mon appareil photo, et j'ai pensé, maintenant, fais-lui une photo. Mais regardez, il n'y avait pas de poussière en or à voir sur son vêtement en noir. Il était vraiment habillé comme un jésuite. Un pantalon noir, une chemise noire, une cravate noire. Et je pensais en moi-même. Mon ami, si on t'enlève ici ce vêtement noir et qu'on te donne un vêtement blanc, on ne verra pas ici de poussière qui tombe, mais tu deviendras toi-même poussière. Ça a été comme ça ma réaction. Pourquoi est-ce que je dis cela ici aujourd'hui? Dans Matthieu 24, notre Seigneur a répété en parlant de cela. Et il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Il y aura des faux Christ et des faux ouins et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils s'élèveront au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Celui qui lit Ésaïe 35 saura ce que le Seigneur dans son ministère a accompli et ce qui a été promis, que nous aussi nous ferons les mêmes œuvres et nous les expérimenterons de la même manière. Il y a quatre choses qui sont exprimées dans Ésaïe 35. Peut-être que je pourrais les lire, comme ça nous les avons de manière écrite et aussi nous pouvons les entendre devant nous et en nous. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Donc c'est une annonce. Elle est encore aujourd'hui au futur. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra. Il n'envoie pas quelqu'un. Celui qui après est envoyé, c'est lui-même qui est venu, mais seulement révélé en tant qu'homme. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant arrive, premièrement, la première chose, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Numéro 2, s'ouvriront les oreilles des sourds. Numéro 3, alors le boiteux sautera comme un cerf. Numéro 4, et la langue du muet éclatera de joie. Il n'est pas parlé ici de pluie en or. Je ne lis pas ici parlant de pluie en or. Mais tel qu'il est écrit dans Ésaïe 53, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais bien-aimés, nous devons tester toutes choses par la parole de Dieu. S'il s'agissait seulement de la musique, et de tous les accompagnements qui sont faits dans de telles réunions, qui règnent dans de telles réunions, alors on n'a même pas besoin de venir. Mais quand il s'agit de la parole, Alors personne n'a besoin de venir parce que tous font que raconter des histoires et ils n'ont pas la parole. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, il nous est dit de manière très très claire au verset 4. Cependant, Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Aux traditions, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous, sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être encore le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans ce contexte des choses, il nous est dit que nous nous égarions comme des brebis et que chacun marchait dans sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants comme des brebis. Ça, c'est notre propre histoire à tous. Et j'écris dans cette nouvelle brochure que tous nous avons été trompés et que nous sommes nés dans la tromperie. Et que Dieu nous a appelés à sortir, nous a fait sortir. Nos propres voix ont pris une fin et nos propres pensées aussi. Et nous avions la grâce de recevoir la parole de Dieu et de fouler le sol du chemin de la vie. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a frayé le chemin de l'Éternel, du Seigneur. Il a rendu droit tout ce qui était tordu et tout ce qui n'était pas juste. Il a redressé. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et dans quel état nous trouvons aujourd'hui encore? Est-ce que tu es encore en train de suivre tes propres voies? Dans ton propre plan? J'ai eu à le dire à notre nouveau frère. Aujourd'hui, chacun veut tirer Dieu dans son propre plan. Aujourd'hui, chacun veut que Dieu prenne part à son plan, prenne part à son œuvre, prenne place à ses intentions. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit plutôt que ce soit Dieu qui nous donne de prendre part à son plan, à son œuvre et à ses intentions, à ce qu'il s'est proposé de faire. Ce ne sont pas nous qui tirons Dieu de notre côté, c'est Dieu qui nous tire de son côté. Parce que c'est de son côté que nous appartenons d'être. C'est là notre place. Et seulement si la parole promise pour ce temps vraiment nous est révélée, c'est comme ça que nous pourrons réellement, dans la réalité, abandonner nos propres chemins et fouler le sol du chemin de Dieu. Ça ne sert à rien s'il est seulement prêché ce qui est écrit dans Ésaïe 55. Vos chemins ne sont pas vos voies ne sont pas mes voies et vos pensées ne sont pas mes pensées, etc. Cela doit devenir une réalité. Cela doit devenir ainsi. L'église du Nouveau Testament doit devenir une église qui vit la parole de Dieu, dans laquelle la parole de Dieu devient une réalité divine ici sur cette terre, peut devenir une réalité divine sur cette terre. Telles que toutes les promesses qui concernaient notre Seigneur sont devenues en lui et par lui une réalité, se sont accomplies par lui et en lui. C'est comme ça aussi, de la même manière, que toutes les promesses qui ont été données à l'église doivent aussi trouver leur accomplissement. toutes promesses de Dieu sont oui et amen. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si nous croyons et nous recevons, alors il les accomplit avec nous et par nous. Que l'incrédulité s'est accrue, et pas seulement parmi les peuples, mais aussi parmi le peuple Israël. C'est pour nous tous, je voudrais presque dire, c'est une tragédie. Tous dans le pays, nous connaissons ce Marcel Reich Ranicki qui a écrit un gros livre et qui plus de 30 ans était connu à la télévision. Il se glorifie ici dans un article avec le titre « Dans aucun jour de ma vie, j'ai cru en Dieu ». Mais il parle de ce que, en 1943, il a pu s'échapper d'un ghetto de Varsovie. Justement, un tel juif qui a pu s'échapper du ghetto de Varsovie. Il aurait pu avoir assez de raisons pour remercier Dieu pour cela. Ce ghetto dans lequel tant n'ont pas pu s'échapper, mais bien sûr, fier de pouvoir dire que dans aucun de mes jours j'ai cru en Dieu. Mais bien aimé, la foi est un cadeau de Dieu. Et ce que des hommes et appellent foi dans les églises et les églises libres, c'est leur propre foi. La foi qui a de la valeur devant Dieu, c'est une révélation. C'est une révélation en relation avec les promesses que Dieu nous a données. Abraham a cru Dieu. Et quand est-ce qu'il a cru Dieu? À partir du moment où Dieu lui a donné la promesse, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Abraham allait ici et là triste et il disait, je n'ai pas de postérité. Et Eliezer de Damas va alors hériter. Mais voilà, Dieu l'Éternel lui est apparu. Sarah était âgée, Abraham aussi. Mais le Seigneur lui a dit, à cette époque-ci de l'année prochaine, ta femme aura un fils. Et il est écrit d'une manière merveilleuse, et Abraham rit. Mais bien aimé, celui qui croit peut déjà rire, que se réjouir que déjà la chose s'est accomplie. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il peut déjà vraiment être heureux et joyeux. La foi nous établit dans cet état de comprendre que la chose promise de Dieu, nous la considérons comme déjà étant reçue de nous. Comme déjà étant reçue de nous. Ça, c'est la véritable foi. Et le Seigneur, une fois, alors que cet homme était venu à lui, qui avait des serviteurs à son service, à cause de son serviteur, il était venu au Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit, une telle foi, je ne l'ai pas rencontrée et trouvée en Israël. Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, dis seulement une parole. Et mon serviteur est guéri. Et que c'est passé ou bien ce n'est pas passé? Ça a eu lieu de cette manière-là. Pourquoi? Parce que cet homme la croyait. Mais bien aimé, la foi prend Dieu à sa parole. Si souvent j'ai eu à le dire, Dieu est digne qu'on croie ce qu'il dit. Sa parole est digne qu'on croie ce qu'elle nous dit. Nous lisons quelques versets bibliques qui, dans la foi, devraient nous fortifier. Je voudrais lire la deuxième partie. Je voudrais laisser la deuxième partie de ma visite à Texas, Oklahoma, ou bien alors laisser cela pour demain matin. J'étais aussi à Texas, Oklahoma. Là-bas, j'ai vu tous ces grands empires, et de centre missionnaire. Mais cela, peut-être que nous devrons le laisser pour demain, parce que ce soir, nous avons ici le souper du Seigneur, etc. Et le temps va passer très rapidement. Dans le psaume 25, nous lisons le psaume 25. Ici, nous avons une prière profonde de tout son cœur, de David, pour la protection et pour la conduite et le pardon et la directive. Et je pense que dans une telle réunion que nous avons ici aujourd'hui, il y a sûrement beaucoup de différents problèmes et de toutes sortes. Et ici, nous voulons apprendre comment est-ce que nous devons nous comporter dans l'épreuve et entrer en possession de ce que Dieu a promis. Dans le psaume 25, « Mon Dieu, en toi je me confie. » Verset 2. Si ici on posait la question, verset 1, « Éternel, j'élève à toi mon âme. » Ici, si on posait la question à quelqu'un, mais où est l'âme? Comment est-ce que je peux élever l'âme à Dieu? Le croyant ne pose pas de telles questions. Le croyant croit, il ne prend pas Dieu, il ne trouve pas une contradiction, ou bien il ne met pas un point d'interrogation à la parole de Dieu. Il voit la parole de Dieu dans son harmonie et il dit, Éternel, j'élève à toi mon âme. S'il vous plaît, soyez attentifs ici, toujours de nouveau, à cette façon de s'adresser directement au Seigneur. Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. En toi, je me confie. Pas au prédicateur ou bien au prophète. En toi, je mets ma confiance. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il ne peut pas être confus. Même si parfois, dans les heures difficiles, cela pourrait sembler ainsi. Mais la fin sera toujours comme cela était avec Job. Que le Seigneur a rendu toute chose d'une manière merveilleuse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de notre fin. Quand Dieu vraiment nous secourra et nous fera entrer dans tous nos droits, parce que dans les temps d'épreuve, nous lui avons fait confiance et nous avons cru entièrement et que nous avons su qu'il rendra toutes choses d'une manière merveilleuse. Nous lisons encore, en toi je me confie et que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Espère-tu en l'Éternel? Espérons-nous tous en l'Éternel? Est-ce que nous avons tous mis notre espérance en lui? Est-ce que notre confiance est vraiment en lui? Alors nous ne serons point confus et confondus. La deuxième partie, il est écrit, dans la deuxième partie, il est écrit au verset 3, la deuxième partie du verset, « Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Alors il continue, « Éternel, verset 4, « Fais-moi connaître tes voies. » Remarquez-vous de quoi il s'agit. Il s'agit de ce que le peuple de Dieu puisse marcher sur les voies de Dieu et ne pas se trouver dans des propres voies, parce que je le répète encore, il ne viendra pas à lui, c'est nous qui devons venir à lui et lui donner raison. Il est écrit ici encore, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Aux traductions, donne-moi de marcher dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Il est le Dieu de notre salut. Et nous avons la grâce d'espérer toujours en lui. Dans le psaume 27 au verset 7, nous lisons, Le psaume 27, au verset 7, nous lisons « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Parfois, dans la réalité, on doit élever la voix. Selon la parole de l'Écriture, « Invoque-moi dans l'épreuve, je te sauverai, je te secourrai et tu me loueras. » Au verset 8, « Mon cœur dit de ta part. » Au traduction, « Mon cœur dit de ta part, selon ton commandement, dans ta parole, cherchez ma face. » Tu dis, « Cherchez ma face. » Je cherche ta face, ô Éternel. Si Dieu le Seigneur dit, rassemble-moi mon peuple pour que je lui parle, alors cela a une signification. Alors ce n'est pas Moïse qui s'adresse à ce peuple. Ce n'est pas Aaron ou bien quelqu'un de quelconque qui s'adresse à ce peuple. Alors c'est Dieu qui parle avec son peuple. Et j'ose dire que Dieu, d'une manière nouvelle, parle avec nous par sa parole, avec nous tous. Et tel qu'il est écrit ici, cherchez ma face. Cela ne vient pas de soi. Dieu doit en nous mettre le vouloir pour le vouloir de l'expérimenter, de le voir, de le chercher, de le trouver. Mon cœur dit de ta part. Et cette parole de Dieu était « Cherchez ma face. » C'est pourquoi, attention, c'est pourquoi. Ô Éternel, je cherche ta face. Verset 9, « Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. » Regardez, tout est dans l'humilité. Pas comme ça, des prières avec fierté, mais des prières avec un cœur brisé. Au verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Car il se lève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Et alors le verset 13. Oh! Est-ce que tous nous pouvons dire cela? Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, est-ce que nous pouvons dire tout cela? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, aux traductions, gloire à Dieu. Si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, l'Éternel, sur la terre des vivants. Autre chose, je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ça, c'est la certitude divine que nous ne pouvons pas nous procurer nous-mêmes et nous donner nous-mêmes, mais que le Seigneur nous accorde et nous a accordé par sa grâce. Au verset, au psaume 18, nous lisons encore un verset. Oui. Verset 7, et nous irons dans d'autres versets, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Que de la poussière en or ne peut pas tomber, ça nous le savons tous. Et que le cheval blanc seulement après le festin des noces de l'agneau sera chevauché pour aller contre les ennemis qui vont se rassembler contre Israël. Ça, nous pouvons tous le lire dans les prophètes de l'Ancien Testament et aussi dans Apocalypse, le chapitre 19, au verset 11. mais que nos prières, par la grâce de Dieu, peuvent atteindre le trône de la grâce. Pour cela, nous avons la certitude dans la parole de Dieu. C'est encore le temps de la grâce, même s'il y a des gens à l'intérieur du message de la fin des temps qui disent, qui prétendent que depuis mars 1963, depuis l'ouverture des sceaux, le trône de la grâce s'est transformé en trône de jugement et que le sauveur est devenu juge. Nous ne nous arrêtons pas à de telles doctrines. Nous savons qu'au moment seulement où le dernier recevra la grâce et sera introduit dans l'église, et que le nombre sera plein. Et c'est ainsi que c'est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 15, Romains 11, verset 25 et les autres versets, et les versets suivants. C'est seulement après que Dieu se tournera à Israël, et c'est seulement après que le jour de l'Éternel, comme il l'est annoncé à l'avance dans le sceau, dans le sixième sceau, va apparaître. Nous devons en toute chose, nous avons en toute chose uniquement la parole de Dieu en tant qu'enseignement. Nous devons en toute chose prendre seulement que la parole de Dieu en tant qu'enseignement. Tout le reste, ça ne vient pas de Dieu, c'est seulement pour égarer. Et ce n'est pas de la révélation, même si cela est présenté en tant que révélation, mais ce sont des imaginations pieuses. Et ça, tel que je l'ai déjà dit, et si Dieu m'accorde sa grâce, jusqu'à la dernière prédication, je resterai dans cette position, aussi certain que chaque enseignement biblique est inspiré par l'Esprit de Dieu et a été révélé par l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que de la même manière, derrière chaque fausse doctrine, il y a un mauvais esprit. D'une seule source, c'est pas possible qu'il y ait de l'eau douce et amère, ou bien quelque chose de vrai et de faux en même temps. C'est pas possible. Et de la source divine, il y a seulement l'inspiration véritable par le Saint-Esprit. Et alors nous sommes apportés en accord avec Dieu et avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec les prophètes et les apôtres. Et c'est en cela que cela doit rester jusqu'à la fin. Parce que nous savons que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Maintenant à tous ceux qui sont encore dans des problèmes, dans la détresse, qui sont encore sous cette impression-là que du Seigneur, ils n'ont pas encore reçu la réponse. Et que vous n'avez pas encore cette certitude de la foi. Et que comme Paul, dans Romains 5, il est écrit, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Si cela n'est pas encore votre témoignage, que cela, et alors cela doit maintenant devenir ainsi. C'est impossible que sous la véritable écoute de la prédication du véritable évangile et de la parole de Dieu, nous soyons là assis sans expérimenter et vraiment recevoir ce que Dieu a promis dans sa parole et ce qui est prêché. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi attire à soi l'expérience de ce qu'on entend. Là où il est parlé de la conversion, on peut expérimenter la conversion. Là où il est parlé de la nouvelle naissance, on peut expérimenter la nouvelle naissance. Là où il est prêché sur la guérison divine, on peut expérimenter la guérison divine. Le plein évangile est prêché et nous avons le droit de recevoir là ce plein évangile qui devient une réalité dans notre vie. Cela est une obligation. Et c'est pour cette raison que nous devons nous mettre à la disposition du Seigneur et lui dire, Seigneur, ici me voici. pas comme ça rapidement, nous voient, nous voici, mais ici, me voici. Et que chacun personnellement, individuellement, puisse entrer dans la présence directe de Dieu. Alors c'est ainsi que cela va se passer. Nous lisons dans Romains, l'Épître aux Romains, le chapitre 10, verset 10. Encore une fois, pour nous fortifier, nous tous qui sommes venus pour expérimenter, pour rencontrer Dieu, et qui sont encore dans des difficultés. Et si cela est le cas, tel que nous l'avons lu dans le psaume, dans les deux psaumes, que cela soit vraiment, si c'est là votre état, tel que nous l'avons lu dans le psaume, dans les deux psaumes, alors que cette parole de Romains 10 soit une fortification pour vous, parce que c'est ainsi que Dieu l'a dit, et c'est parce que c'est lui qui l'a dit, c'est comme ça que c'est ainsi, tel qu'il a dit. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Pas selon ce que dit un homme, mais selon ce que dit les Écritures. Et les Écritures, c'est la sainte et précieuse parole de Dieu. Tel que dit l'Écriture, cela peut être lu. C'est écrit Ésaïe 28, verset 16. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Avons-nous tous compris cela? Avons-nous reçu cela dans la foi? Dans la foi? Si il est écrit quiconque, alors c'est quiconque. Si des milliers viennent, des milliers ne seront point confus. Et si 99 viennent, 99 viennent, 99 ne seront pas confus. Si il est écrit ici que quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors toi aussi tu appartiens à ce nombre là, et moi aussi j'appartiens à ce nombre. Nous devons pouvoir nous introduire dans ce verset. Nous devons nous mettre dans ce verset, dans le rang des croyants, parce que nous sommes devenus croyants et nous faisons confiance au Seigneur et nous savons que il fera toutes choses d'une manière merveilleuse. Il rendra toutes choses d'une manière merveilleuse. Selon ce que dit l'Écriture. À chaque fois que cela est écrit, l'Écriture, la joie vient dans mon cœur. Selon ce que dit l'Écriture. Parce que, au verset 12 maintenant, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Est-ce que tu l'as déjà invoqué? Est-ce que dans la foi tu l'as déjà invoqué? Alors ici s'accomplit cette parole. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pas seulement demain, aujourd'hui, ce soir, ici, dans cette réunion, il veut être riche en ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu l'as déjà invoqué? Est-ce que dans la foi tu l'as déjà invoqué? Alors s'accomplit cette parole. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pas seulement demain, aujourd'hui, ce soir, ici, dans cette réunion, il veut être riche pour tous ceux qui nous tous qui l'invoquons. Le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une promesse qui déjà avait été prononcé dans le prophète Joël, alors, donc, était déjà écrite dans les Écritures. Nous croyons tel que l'a dit les Saintes Écritures. Et si nous croyons tel que l'a dit les Saintes Écritures, Dieu alors est obligé d'accomplir sa propre parole telle que je serais obligé d'accomplir ma parole si je faisais une promesse à quelqu'un. Et si avec ce qui est promis, je fais comme avec un testament, je scelle cela avec la mort, parce que c'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Il a fait un nouveau testament. Il a donné des promesses. Et ensuite, par son sang sur la croix à Golgotha, il a appliqué en force, dans toute sa puissance, la nouvelle alliance. Et c'est pour cette raison que notre foi est déjà la victoire. Cette victoire qui suit la croix du calvaire à Golgotha a eu lieu pour nous. C'est-à-dire la victoire qui a vaincu le monde, le diable et l'enfer. Nous combattons avec un adversaire déjà vaincu. Jésus-Christ est l'unique vainqueur, le vainqueur de Golgotha. Alors, si nous parlons de la foi, alors il est nécessaire de savoir que Dieu pense à ce qu'il dit et dit ce qu'il pense, et que il se tient sur sa parole par sa grâce. Dans Éphésiens, le chapitre 2, nous voulons encore ici lire la première chose est connue de tous. Paul, si Paul écrit ici, par exemple, au verset 3, Éphésiens chapitre 1, pardon, au verset 3, béni soit le Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Pas va nous bénir, mais nous a bénis. Sur la croix à Golgotha, c'est là que la malédiction a été ôtée. C'est là-bas que la réconciliation a eu lieu. Et avec la réconciliation, Dieu ne nous a plus tourné la face. Ne nous a plus caché la face. Mais il nous tourne la face, il nous montre sa face. C'est à cause que nous avons la grâce de croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, qui sur la croix du calvaire à Golgotha a payé le prix et a dit, c'est accompli. Ce cri n'a pas seulement atteint la terre, toute la terre, et pénétré le ciel. Le Seigneur lui-même est allé dans les régions inférieures de la terre. Et là-bas, il a proclamé la victoire. Il a pris la puissance de la mort. Il a ôté les clés du séjour des morts. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et il a dit à Jean, sur l'île de Patmos, voici, j'étais mort, mais je vis éternellement. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Même si l'adversaire est encore là. Mais voilà, je vis pour toute l'éternité et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Même si l'adversaire est encore là, mais il est vaincu. Même si la mort est encore là, elle est vaincue. La mort ne nous donne pas de soucis, ne nous donne pas de crainte. Elle est seulement une ouverture par laquelle nous passons du temps à l'éternité. Ce n'est pas une fosse dans laquelle nous tombons. Ce n'est pas un problème, un feu dans lequel nous irons. La mort est pour nous l'ouverture. Oui. Le passage du temps dans l'éternité.
dans le deuxième chapitre d'Éphésiens, nous lisons à partir du verset 12. Oh, que cette réunion puisse être une possibilité de nous fortifier dans la foi pour nous tous, d'une manière que même le dernier soit saisi dans son intérieur le plus profond, et que l'incrédulité soit ôtée de tous les cœurs et de toute cette salle et de tout ce bâtiment soit chassé, et que la foi puisse manifester la victoire, et que tous nous puissions prendre part à ce triomphe divin. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était. Mais ce n'est plus notre état. Ça, c'était. Ici, on peut vraiment dire, il était une fois. Mais maintenant, ce n'est plus ainsi. Il est écrit ici, à partir du verset 13, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Mais maintenant, pas seulement au futur, pas seulement dans le futur, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ici est la clé. La plupart des gens veulent s'approcher de Dieu et lui être aussi agréable. Et ils essayent toujours de nouveau de leur propre manière. Une fois de cette manière, une autre fois de cette manière. Non, cela ne se passe pas par ce que tu pourrais faire, ou bien ce que je pourrais faire, ou bien ce que tu essaierais de faire, ou bien ce que j'essaierais de faire. Cela a eu lieu déjà sur la croix à Golgotha par le sang de l'agneau. C'est là-bas que le mur de la séparation a été ôté. C'est là-bas que Dieu nous a pardonné. C'est là que Dieu a accordé la paix et a fait la paix avec nous. Qui est cette paix qui est plus grande que toute intelligence humaine. Nous lisons ici à partir du verset 13, encore une fois. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous êtes, pas vous seriez, mais vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que c'est vrai ce que nous lisons ici? Est-ce que c'est vrai ce que la parole de Dieu ici dit? Est-ce que cela s'est passé ainsi? Cela s'est passé. Et si aujourd'hui tu peux le croire, cela va se passer aujourd'hui avec toi. Alors cela va devenir une réalité avec toi, avec moi, avec nous tous, ce soir, dans la présence de Dieu. Et je pense que dans la présence de Dieu, cela ne devrait pas être pour nous difficile de croire. Qu'est-ce que vous pensez? Si, par exemple, nous étions dans les réunions de notre Seigneur quelque part en Samarie, ou bien en Galilée, ou bien quelque part à Capernaum, ou bien à Jérusalem, si nous étions là-bas, si nous avions été là-bas, et maintenant arrive le point. Vous savez qu'il y avait eu aussi autrefois des croyants et des incroyants. Il y avait eu des hommes qui ont désigné le Seigneur de toutes sortes de titres, jusqu'à même Belzébuth. ils l'ont désigné, ils l'ont nommé. Et des réunions qu'ils tenaient, ils n'ont pu rien recevoir. Par leur critique, par la disposition de leur cœur, ils se sont dérobés la bénédiction de Dieu. Mais ceux qui sont venus au Seigneur dans la foi et qui l'avaient reçu, c'est à ceux-là qu'il a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils croyaient en son nom. Et ils étaient les bénis dans les réunions de notre Seigneur. C'est la même chose encore aujourd'hui. Des gens qui peuvent prendre Dieu à sa parole et qui croient de tout leur cœur, ils sont ceux-là justement qui reçoivent ce que Dieu a promis dans sa parole. Ils sont les bénis du Seigneur. Les critiques, ceux qui critiquent, repartent vite. Et vous pouvez lire tous les évangiles. À peine le Seigneur apparaissait, que déjà les scribes et pharisiens déjà étaient en place. Et ils avaient toujours quelque chose à lui faire comme reproche. Pas seulement le jour du sabbat, mais à chaque fois, à chaque occasion que cela se passait. Et alors le Seigneur, un jour, la chose est arrivée d'une manière que dans Matthieu 23, il a prononcé ces 7 expressions, malheur à vous, 7 fois dans Matthieu 23, malheur à vous, vous scribes et pharisiens. Et de nouveau, malheur à vous, malheur à vous. Il les a désignés d'aveugles, conduisant des aveugles. Et il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, quelque part disait, et, ou bien alors il a posé la question à une autre personne, qu'est-ce qui se passe si un aveugle conduit un autre aveugle? Ça, nous le savons tous. On n'a pas besoin ici d'attendre une réponse. Les deux tombent dans une fosse. Donc, la grâce que Dieu nous a accordée consiste à ce que il l'a ouvert nos yeux et il a oint nos yeux de l'onction sainte et que de lui, nous avons reçu la foi qui est plus précieuse que l'or qui est éprouvé dans le feu. C'est ainsi que Pierre l'écrit. Pas de l'or venant des rues en or en forme de poussière, mais la foi qui vient de la parole de Dieu qui nous a été révélée. Et c'est cette foi-là, elle est déjà éprouvée, elle est claire. La foi n'a plus d'incrédulité en soi, tout est sorti. Et cette foi est pure comme l'or pur, puis l'or éprouvé, pur de cette manière. C'est ainsi que notre foi doit être. Est-ce que vous voulez avoir cette foi? Ça, c'est la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors ici, on peut dire, et on peut vraiment fermer les yeux et prendre Dieu à sa parole. Parce que nos yeux intérieurs, les yeux de notre cœur se sont ouverts, ont retrouvé la vue et la parole est devenue une lumière sur notre chemin. Nous ne marchons plus, que Dieu soit remercié pour cela, nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous avons la grâce d'avoir la lumière de la vie. Qu'est-ce que Jean a fait? avec son message biblique. Il a rendu témoignage de la lumière. Oh, comme c'est merveilleux. Et comme c'est bon de ce que nous pouvons bien lire. Et que c'est bien de ce que nous pouvons lire. Je ne suis pas, et il disait, je ne suis pas la lumière. Je suis venu pour rendre témoignage de la lumière. La lumière est venue dans le monde. Et tous sont éclairés par cette lumière. Et ici, il y a une phrase qui est dite, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue, n'ont pas été saisies par la lumière. Remerciez Dieu si vous avez été saisis par la révélation de la parole de Dieu. Et comme de nos amis, sur, nous pouvons lire, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas eu une tête qui brûlait, ils ont eu un cœur qui brûlait. Quand le Seigneur parle à nous, parle à notre cœur, la tête reçoit très peu à faire, mais le cœur a beaucoup à faire. Le cœur a beaucoup à faire. Et plus les révélations de la parole de Dieu atteignent notre cœur, plus facile ce sera ici, sur, ici dans la tête, et plus puissant ce sera dans notre cœur. Et subitement, nous baissons notre oreille vers le cœur et nous disons, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas alors qu'il parlait avec nous en chemin? Nous disons ça l'un à l'autre. Mais bien aimé, nous sommes encore en chemin. Et encore le Seigneur parle par sa parole avec nous tous. Et sa parole nous est révélée. Seulement encore ce verset d'Éphésiens chapitre 3 dans lequel Paul représente devant les yeux de l'Église encore une fois ce mystère qui, depuis la fondation du monde, était caché. Éphésiens, chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu. Oui, qui ne voudrait pas être quelqu'un qui fait part d'un bien. Et ici, Paul, avec ses frères, se présente en tant que quelqu'un qui fait part de la grâce de Dieu. Et il dit ici, qui m'a été confié pour vous. Aucun prophète s'est servi lui-même. Aucun apôtre. Tous, ils ont servi le Seigneur. Et le Seigneur lui-même est venu. Ce n'était pas pour se servir, ce n'était pas pour se laisser servir, mais pour servir. Et il s'est placé dans la brèche. Ici, il est écrit, au verset 2, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il donne la gloire à Dieu, il donne l'honneur à Dieu, il dit que c'est par révélation que cela lui a été accordé, qu'il a eu la connaissance du mystère, et c'est par la révélation que tu as eu et que j'ai eu aussi connaissance de ce mystère. La révélation vient de Dieu, pas du prédicateur. La révélation vient directement de Dieu. Et elle est accordée à chacun qui a cette relation personnelle avec lui par l'esprit et par la parole, qui a reçu cette révélation, cette liaison personnelle avec lui par l'esprit et par la parole. Et il est écrit encore ici, au verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Toujours de nouveau, cette parole révélée. Aujourd'hui, j'ai écouté une prédication très sérieuse de frère Branham. Déjà des années 64 après l'ouverture des sept sceaux. Oh, comment est-ce qu'ils montrent aux sœurs leur place? Comment est-ce qu'ils montrent aux frères la responsabilité devant Dieu? Et il le dit ouvertement. Les portes se ferment pour moi toujours plus. On ne veut plus écouter la parole, mais je porte la responsabilité devant Dieu. Je dois vous la porter. Aucun homme a une idée de ce que cela signifie pour un homme de Dieu, pour un homme de Dieu qui a été directement établi par Dieu et dont le ministère est d'une signification liée directement à l'histoire du salut maintenant, à la fin des temps. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'aurais préféré que vos pensées soient les pensées de Dieu. Pourrait devenir les pensées de Dieu. Mais parfois, c'est ainsi qu'il y a des gens qui disent les pensées sont libres, mais pas les tiennes et pas les miennes non plus. Les pensées de ceux-là qui croient ce qu'ils veulent et aussi qui marchent dans leur propre voie et qui veulent tirer Dieu dans leur propre programme. Ceux-là peuvent penser ce qu'ils veulent et ils ne vont pas se laisser non plus enseigner par nous si déjà ils n'acceptent pas l'enseignement de Dieu. Mais nous n'avons plus le droit d'être dans nos propres programmes, nos propres plans, nos propres voies, notre propre vie. Nous devons atteindre ce point une fois pour toutes où nous pouvons dire et que cela, s'il vous plaît, soit lié avec la réalité que nous vivons. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'une manière que tel que Dieu était en Christ, Christ en nous vraiment peut être. Et tel que notre Seigneur autrefois disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, ces œuvres. Mais c'est le Père qui est en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Alors que cela puisse avoir lieu, que un jour, et que cela soit très bientôt, que nous puissions dire, ce n'est pas nous qui avons fait ces choses. C'est Jésus-Christ, le ressuscité, qui bientôt revient, qui maintenant appelle son église à sortir et qui la libère de tout le vieux levain et qui dit ne touchez à rien d'impur. Alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Israël, toujours de nouveau, a pris part à l'impureté a été infidèle, a suivi des dieux étrangers. Et depuis le concile de Nicée, le christianisme court après une soi-disant divinité qui a été formée par la pensée humaine venant de la philosophie. Il n'a pas de Dieu avec trois têtes. Et il n'y a pas non plus de trois personnes qui devraient s'unir. Il y a un seul, unique, qui de trois manières différentes s'est révélé au ciel en tant que notre Père. Et c'est pour cette raison que nous disons notre Père qui est aux cieux. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui aurait pu tant s'oublier d'une manière qu'il prierait notre Fils qui est au ciel. Ça, dans les mouvements charismatiques, les différentes réunions, là-bas, je n'ai pas entendu une telle formulation. Mais sûrement que c'est vrai que nous avons vu qu'il y avait un charismatique qui disait « Maintenant, nous souhaitons la bienvenue à la Sainte Trinité. Premièrement au Père. Et après qu'il a prononcé le mot Père, nous te souhaitons la bienvenue. Tous ont frappé fort des mains. Et alors qu'il a dit maintenant, nous souhaitons au Fils la bienvenue. Tous de nouveau ont frappé fort des mains. Et alors qu'il a dit maintenant, nous souhaitons au Saint-Esprit, au-dessus de tous, la bienvenue. Et le peuple était vraiment hors de soi. On pouvait seulement entendre crier une telle chose ne connaît pas les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures connaissent seulement le seul et unique véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce seul Dieu unique pour notre salut s'est révélé en Jésus-Christ, son Fils unique. Et en même temps, en tant que fils et fille de Dieu, par le Fils, nous accorder l'adoption, la position de fils, pour nous rétablir dans notre état original que nous avions devant Dieu. Pour nous rétablir. Ça, c'est le plein salut. Ça, c'est la pleine rédemption. Gloire et louange soient apportées à notre Seigneur. Pas un Dieu formé par des hommes. Mais nous prenons Dieu tel et nous le recevons tel que il s'est révélé. Alors maintenant, nous arrivons à la deuxième partie. C'est déjà depuis beaucoup d'années que à tous les premiers week-ends d'octobre, nous avons le souper du Seigneur les uns avec les autres. Et en fait, nous voulions remettre cela à la fin de l'année, parce que nous aurons donc à la fin de l'année trois réunions, c'est-à-dire le 31 sera déjà vendredi soir, et alors samedi et dimanche. Mais il y a eu assez de voix, trop de voix qui se sont annoncées et ont exprimé ce désir aujourd'hui de tenir le souper du Seigneur. Et alors nous avons tous amené avec nous du temps, ceux qui restent ici de toutes les manières. Je crois que le temps que nous entreprenons dans une réunion est mieux que ce temps que nous avons quelque part comme ça dans des entretiens. Et celui qui doit un peu entreprendre un chemin, celui qui veut déjà repartir, nous souhaitons les bénédictions de notre Dieu. Mais celui qui devra passer une nuit plus courte, cela ne lui fera pas un grand mal. Passons au souper de notre Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux de ce que notre Seigneur, déjà avant la crucifixion, avant de verser le sang de la nouvelle alliance, il a pris encore le souper avec ses disciples. Marc 14, nous voulons aujourd'hui le lire. Nous avons souvent lu ces versets de l'évangile de Matthieu. Nous voulons aujourd'hui le lire dans Marc, le chapitre 14, au verset 21, il est écrit: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. De nouveau ici, selon ce qui est écrit de lui. Verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Matthieu dit le sang de la nouvelle alliance. Cela veut dire la même chose, c'est seulement la formulation qui est choisie différemment. Une nouvelle alliance dans laquelle nous avons été introduits, elle a été appliquée en force dans toute sa puissance au moment où le Seigneur donna son testament et mourut. Nous avons été, en tant que héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ, nous avons été établis. Et tout ce qui appartenait à Dieu, il a révélé en Christ. Et tout ce qui avait été révélé en Christ a été donné à l'Église. Tel que dans Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, nous avons lu. Il a donné ces choses. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Nous faisons qu'attendre l'accomplissement, l'achèvement de l'Église. Et alors, le Seigneur reviendra tel qu'il l'a promis. Et selon 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous prenons le souper du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec toute la certitude, il revient bientôt. Nous pouvons dire l'un à l'autre: Maranatha. Et si même il y a 2000 ans d'ici, il disait: voici, je reviens bientôt. Aujourd'hui, par l'accomplissement des prophéties bibliques, nous pouvons montrer, tel que dans Matthieu 24, au verset 33, il disait: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. À la porte. Cette parole m'a touché vraiment d'une manière puissante le cœur, je ne peux pas ici vous l'exprimer. Dans toutes les réunions, presque durant toute l'année, je l'ai dit aux hommes, c'est-à-dire le verset 33, dans Matthieu 24. Est-ce que je devrais vous lire ce verset? Peut-être pour que tous puissent savoir ce qui est écrit ici. Verset 33. Matthieu 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Proche. 100 kilomètres, ça peut être proche. Si, par exemple, vous êtes en train de venir ici, à la Réunion, même 50 kilomètres, c'est proche. Et même 1 kilomètre, c'est proche encore. Mais au moment où vous entrez ici dans la parcelle du centre missionnaire, alors vous n'êtes pas tellement proche. Alors vous êtes devant la porte. Et notre Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses que je vous ai annoncées à l'avance, s'accomplir, toutes les tremblements de terre, toutes les famines, toutes les catastrophes, toutes ces prophètes, ces faux Christ, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, reconnaissez par cela que c'est proche à la porte. Devant la porte. 1 kilomètre, c'est pas devant la porte. 5 kilomètres, encore moins. Mais dès que nous avons atteint le but, nous sommes devant la porte. Il y a 2 expressions devant la porte. Apocalypse, chapitre 3. Dans la dernière lettre adressée à l'âge de l'église. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Ça, c'est l'état actuel. Le Seigneur n'a plus la parole à l'intérieur. À l'intérieur, oui, bien sûr, on parle de lui et on chante. Mais lui-même, il est devant la porte et il frappe. Mais celui qui entend sa voix, et comme c'est d'une manière merveilleuse, frère Branham l'avait dit, cette porte du cœur n'a pas de poignée de l'extérieur. Cette porte ne peut qu'être ouverte par chacun lui-même, c'est-à-dire de l'intérieur. Le Seigneur frappe à la porte, et c'est ainsi aussi, terrestrement, quand nous arrivons quelque part, nous entrons pas comme ça avec la porte à l'intérieur, nous frappons d'abord, et c'est comme ça que le Seigneur frappe maintenant. Et celui qui, à la fin du temps de la grâce, dans ce dernier âge de l'Église, dans cette génération, entend sa voix, pas la voix d'un prophète, la voix d'un prédicateur, mais sa voix, qu'il puisse alors lui ouvrir son cœur. Alors il entrera et il tiendra le souper avec nous. Oh, dites maintenant, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Que tu puisses entrer, établir ta demeure et tenir le souper avec nous, avec moi. Est-ce que vous l'avez dit ou bien seulement pensé? 1 Corinthiens chapitre 11. Tous nous connaissons ici ces paroles d'introduction au souper. Et dans le dernier verset, nous lisons verset 26, nous lisons. Donc 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À l'époque, il disait autrefois, il disait, à partir de maintenant, je ne vais plus boire de la vigne, du produit de cette vigne avec vous, jusqu'à que je le boive avec vous dans le royaume de mon Père. Ce jour glorieux arrive des noces avec notre Seigneur dans la gloire. Aujourd'hui, il tient le souper avec nous. Et alors, nous tiendrons ce souper avec lui. Pour tous ceux qui n'ont jamais pris part au lavage des pieds, je voudrais lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, pour que vous puissiez savoir que cela est écrit ainsi dans la Bible. La tête saisit toujours la réflexion et pose la question au prochain. Mais qu'est-ce que cela a comme sens? Qu'est-ce que cela devrait avoir comme sens? Non, le cœur ne pose pas de questions. Le cœur y croit. Le cœur obéit. Et l'homme à qui Dieu a donné d'entrer dans l'obéissance de la foi ne pose pas de questions à Dieu et ne dit pas oui et, ou bien mais accomplit ce que le maître a ordonné. Dans Jean chapitre 13, nous voyons notre Seigneur, dans Jean chapitre 13, nous voyons notre Seigneur qui avec ses disciples tient le souper de la Pâque. C'est ainsi que nous le lisons ici. C'était lors de ce souper et que déjà le diable avait, donc au verset 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, alors fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc Jean 13, verset 2 maintenant, le verset 5. Ensuite il versa de l'eau. D'abord au verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Et maintenant au verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, le verset 7, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Au moment où Pierre avait compris que ici, c'est une chose sérieuse, il a voulu même être lavé entièrement. Pas seulement les pieds, mais les mains et aussi la tête. Nous avons dans notre pays parfois entendu cette expression: toi, je vais te laver la tête. Je vais te laver la tête. Avec cela, on veut dire par là, je vais te dire les choses telles que tu devrais les entendre. Non, ici, il s'agit de l'obéissance de la foi. Et nous lisons ici encore, à partir du verset 10, Jésus lui dit: celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Auparavant, de toute manière, ils avaient pris un bain et ils s'étaient trouvés à se souper avec le Seigneur. Et donc le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Et au verset 12, nous lisons: après qu'il leur eut
lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et il ajoute à cela, « en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Alors, pas pourquoi, ou bien mais quel sens cela a, mais plutôt comprendre que puisque c'est le Seigneur qui a établi cela, de la même manière aussi en ce qui concerne le baptême et tout ce qui nous a été enseigné et transmis dans les Écritures et donné en tant qu'exemple, et exemple à prendre, oui, et c'est, cela concerne aussi le lavage des pieds. En tout cas, avec une bonne conscience, on peut dire qu'avec ce que le Seigneur lui-même a ordonné, personne ne peut faire quelque chose de faux. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Avec ce que le Seigneur, avec ce que le Seigneur a ordonné, on peut jamais, en le faisant, on ne peut jamais faire quelque chose de faux. Mais on peut faire quelque chose de bien en mettant cela en pratique. N'êtes-vous pas heureux de ce que ce sujet, ce thème n'a pas été conclu avec le verset 11, c'est-à-dire le lavage des pieds avait été terminé. Et le Seigneur a pris ses vêtements et s'est remis à table et a réuni les siens autour de lui. Oh, comme la parole de Dieu est merveilleuse et parfaite. Dites une fois, alléluia. Dites gloire à Dieu, le Seigneur. Rien n'a été oublié. Tout nous est dit clairement et aussi nous a été transmis d'une manière merveilleuse. Et aujourd'hui, nous n'allons pas non plus poser cette question, mais pourquoi? Mais plutôt faire tel que le Seigneur et Maître a ordonné. Il nous a donné, il a dit qu'il nous a donné un exemple pour que nous puissions faire tel que il nous a fait. Mais s'il y aurait quelqu'un qui, lors de la première fois, ou bien en général comme ça, n'a pas encore cette clarté, cette compréhension des choses, sentez-vous, s'il vous plaît, libre. Ne vous sentez pas obligé. Ne vous sentez pas obligé. Alors, laissez-vous cela montrer par le Seigneur et révéler par lui. Ici, personne est obligé de se baptiser. Personne, on n'essaye pas de convaincre quelqu'un de mettre en pratique quelque chose de biblique ou bien quoi que ce soit. Ici, c'est Dieu qui par la parole et par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, concernant les choses qui sont agréables à Dieu, c'est lui qui nous les montre. Et nous vivons justement dans le temps favorable et agréable. Et nous vivons dans le dernier temps. Et je veux l'exprimer sincèrement. Si du vivant de frère Branham, dans son église, je n'avais pas vu le déroulement du lavage des pieds. Je n'avais pas pris part aussi au lavage des pieds, au souper du Seigneur. Cette chose m'aurait pas été comme ça facile à mettre en pratique. Parce que de nature, nous avons nos propres pensées, une propre tête. Nous voulons l'avouer, l'admettre. Et quand on entendait même des prédicateurs qui, comme ça, pouvaient, dans leurs prédications, comme ça, interpréter ça de manière différente et dire, aujourd'hui, nous faisons que essuyer les souliers des gens. Mais personne ne l'a mis en pratique. Et tous l'ont seulement dit. Hein? Ils ont dit, ouais, on n'a plus besoin de laver les pieds. Les pieds ne sont pas sales aujourd'hui, etc. Hein? Hein? D'accord? Donc, approchez-vous de quelqu'un qui enlève ses chaussures et qui n'a pas comme ça des pieds en bonne santé. Et vous verrez si les pieds dans la transpiration, etc. ne transmettent pas une odeur et sont pas, n'ont pas besoin d'être lavés. Hein? Parce qu'ils disent, oui, mais ça c'était à l'époque, etc. La poussière, les sandales. Hein? Et cela, je l'ai encore dans mes oreilles. Hein? Nous allons seulement essuyer nos souliers, donc nos chaussures, les uns les autres. Mais ces gens-là n'ont essuyé les chaussures de personne. Si ce n'est qu'ils se soient, ils ont eux-mêmes donné leurs chaussures aux autres pour qu'ils les essuient. N'est-ce pas? J'ai vu ces prédicateurs-là. Et c'est justement toujours ces gens-là qui distribuent des fardeaux aux autres sans eux-mêmes les porter. C'est comme ça que le Seigneur déjà l'avait dit à l'époque. Et je veux me joindre à cela. Dieu doit nous accorder sa grâce, pour que la parole que nous prêchons, nous la mettons en pratique. Aujourd'hui, nous le ferons. Et que Dieu puisse vraiment nous accorder sa grâce pour cela. Sentez-vous libre. Le souper du Seigneur est pour tous ceux qui, en tant que leur Sauveur personnel, ont reçu consciemment Jésus-Christ. Je sais que frère Branham a dit que seulement celui qui est baptisé d'esprit peut prendre part au souper du Seigneur, devrait prendre part au souper du Seigneur. Je le dis en étant conscient de ce que je dis parce que il a prêché ainsi dans une prédication. Mais repartons aux Écritures. Notre Seigneur, avant la Pentecôte, avait déjà pris le souper avec ses disciples. Ça aurait été bien si cela pouvait nous être révélé dans notre cœur qu'aujourd'hui, disons au Seigneur, je voudrais lors du prochain souper en tant qu'un racheté, justifié, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, je voudrais prendre part au repas. Que cela puisse devenir une détresse dans notre cœur. Et si c'est devenu une détresse, alors Dieu exaucera. Et en cela aussi, cette parole a sa valeur. Invoque-moi dans les détresses, je t'exaucerai et tu me loueras. Paul a seulement distribué le souper du Seigneur à des gens baptisés du Saint-Esprit. Mais à ces gens-là, c'est justement à ces gens-là que dans toutes ses épîtres, il a repris et il a corrigé, adressé aux Corinthiens, comme nous le savons tous. Alors, revenir à la parole, revenir à l'église primitive. Mais aujourd'hui, nous prenons part au souper étant libres et joyeux parce que Dieu en Christ nous a fait grâce. Et en nous, ce n'est pas seulement un désir réel, mais ce désir plein de chaleur qui dit au Seigneur, baptise-moi du baptême de l'Esprit. Accorde-moi ton sceau et tout sera bien. Que Dieu nous bénisse. Nous nous levons et nous chantons encore un cœur tel que je suis. Et nous nous examinons nous-mêmes devant la face du Seigneur, devant la face de Dieu et nous tiendront le repas.